René prépare le barbecue. Il retrouve sa
René ne prépare pas le barbecue parce qu'il est 7h14 et qu'à 7h14, René, on se réveille debout. René, les brochettes sont cuites.
René.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Une joie, une souffrance, la radiographie du coronavirus. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez tout nous dire sur la nouvelle mutation du virus trouvée en Grande-Bretagne.
Alors tout vous dire, c'est beaucoup dire Guillaume, parce qu'on n'en sait précisément pas encore beaucoup, mais voici en tout cas ce qu'on peut en dire et ce qu'on sait à l'heure où je vous parle. Cette nouvelle mutation aurait touché un peu plus de 1000 personnes, principalement dans le sud-est de l'Angleterre, et le ministre de la Santé britannique était assez alarmiste, hein, puisqu'il disait que ce variant pourrait être impliqué dans la propagation, je cite, « exponentielle de la maladie ». Sauf que pour le moment, scientifiquement, eh bien, rien ne permet de dire ça. Alors je vais vous rappeler deux, trois choses sur les mutations. N'importe quel virus mute quand il se réplique. Le SARS-CoV-2 mute un petit peu moins que la moyenne des virus parce que il contient une sorte de mécanisme de correction de ses propres erreurs. Il y a donc un certain nombre de ce qu'on appelle des clades. Des clades, ce sont des branches du virus. On peut faire un arbre qui permet de retracer la propagation depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui. La mutation, c'est donc un phénomène tout à fait normal. L'écrasante majorité de ces mutations ne change strictement rien au virus. Ce qui se passe, c'est que une lettre de l'ARN se substitue à une autre lettre. Le virus en compte 30 000 et le résultat, c'est que eh bien, la plupart du temps, ça ne fait rien. Mais là, la raison de l'inquiétude, c'est que ce variant britannique compte 17 mutations, dont deux qui portent sur la protéine Spike. Vous savez, c'est la protéine de surface du virus qui est en quelque sorte la clé qui permet au virus de rentrer et d'infecter les cellules. Or, si on modifie un peu la forme de la clé, eh bien, les anticorps qui s'y attachent pourraient potentiellement ne plus la reconnaître. Et donc, le virus pourrait devenir plus virulent. Et in fine, la vaccination pourrait ne plus marcher ou ne plus marcher en tout cas aussi bien. Or, en l'occurrence, aucune de ces deux mutations qui affectent la protéine Spike n'en change la nature. Mais l'une de ces deux mutations pourrait néanmoins, selon des modélisations, ce n'est pas encore confirmé, modifier légèrement sa forme dans l'espace, sa conformation. Mais pour l'heure, il est impossible de dire si cette légère modification a ou non un effet. Cette modification, en l'occurrence celle qui change la conformation, elle est déjà apparue, on l'a déjà trouvée à d'autres endroits, à d'autres moments, dès février en Allemagne et en Thaïlande. Là, ce qui inquiète, c'est son association avec une autre mutation, si vous voulez, ce cocktail de mutations qui suscite l'inquiétude.
D'autant plus qu'un patient infecté par ce variant a fini par ne plus répondre au traitement, Nicolas.
Alors oui, en effet, mais il ne s'agit pas de n'importe quel patient, il faut le préciser parce que c'est très important, il s'agit d'un patient qui était très sévèrement immunodéprimé. Son système immunitaire était très très faible, très fragile. Il était traité par du plasma, c'est-à-dire, si vous voulez, en quelque sorte une transfusion d'anticorps, et ça a fini par ne plus fonctionner, c'est-à-dire on parle d'échappement thérapeutique, le sérum ne marchait plus sur lui, or il présentait cette fameuse version mutante du virus. Ce qui laisse donc craindre que les anticorps ne soient plus efficaces contre ce variant précis du SARS-CoV-2. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un cas très particulier, donc pas du tout significatif. Il est strictement impossible aujourd'hui de conclure que c'est ce variant qui a provoqué l'échappement thérapeutique et pas simplement la condition, la fragilité du patient. Ce qu'il faut retenir, Guillaume, surtout vis-à-vis de l'impact de ce variant sur la vaccination ou de son potentiel impact, c'est que, un vaccin s'appuie sur l'ensemble de cette protéine S, de cette clé. Or, il y a plusieurs types d'anticorps qui sont produits par l'organisme, et donc même en cas de légère modification de cette conformation de la protéine S, de cette clé du virus, eh bien a priori, ça ne serait pas suffisant pour rendre le vaccin totalement inefficace. Et que par ailleurs, il faut savoir que la technique de vaccin à ARN messager qui est employée par Pfizer et Moderna est très simple à mettre à jour, à adapter si vous voulez, au cas où une mutation plus importante surviendrait et en diminuerait l'efficacité. Et deuxièmement, c'est que les données sanitaires qui sont aujourd'hui à notre disposition sont insuffisantes pour dire si la recrudescence de cas dans le sud-est de l'Angleterre est liée à ce variant, donc le rendrait plus infectieux, ou s'il s'agit simplement d'un effet statistique du fait de la recrudescence de contamination du virus que connaît en ce moment le Royaume-Uni. De très nombreux médecins et virologues le disent d'ailleurs d'une seule voix, il est trop tôt pour s'inquiéter de ce nouveau variant.
Oh, mais on n'est pas du tout inquiet, Nicolas, pas du tout.
Ben, j'espère
d'ailleurs,
bien.
Pour ce qui nous concerne en France, est-ce qu'il faut d'ores et déjà se préparer à être reconfiné en janvier ?
Eh bien, écoutez, Guillaume, si on en croit à l'OMS, l'Europe va tout droit vers une troisième vague début 2021. Et il faut dire que si on regarde les derniers chiffres de la semaine pour la France, c'est pas très très encourageant. Hein. Le taux de reproduction effectif, vous savez, c'est le nombre de malades qui sont contaminés par une seule personne. Eh bien, ce taux de reproduction effectif est quasiment revenu à 1 au niveau national. On est à 0,97. Alors vous savez, si le taux de reproduction effectif est supérieur à 1, eh bien on rebascule dans une logique épidémique. Autant dire que eh bien le moindre surcroît de contamination nous ferait justement rebasculer dans une reprise de l'épidémie. Or, selon Samuel Alizon, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire maladies infectieuses et vecteurs à Montpellier, que nous avons interrogé, il est spécialiste en modélisation, si le nombre de cas positifs officiels aujourd'hui est lissé à environ 12 000 par jour pour la semaine passée, il est remonté ces derniers jours au-dessus de 15 000 depuis quelques jours, ce qui signifie donc, selon Samuel Alizon, que le nombre de cas réels, hein, dont les personnes non diagnostiquées, doit être supérieur à 20 000. Ce qui conduirait, selon ces projections, avec le décalage, hein, vous savez, dont on a déjà parlé, entre le moment où on est infecté, le diagnostic, puis l'hospitalisation, puis le passage en réanimation, on rajoute quasiment 10 jours à chaque fois, eh bien un retour à un pic de 3 000 lits de réanimation occupés en France tout début février. Et quand on parle de surcroît de contamination, si on en croit une étude qui vient de paraître sur les modes de transmission qui a été pilotée par l'épidémiologiste Arnaud Fontanet et publiée hier, eh bien précisément, le risque est très élevé au cours des réunions privées qui concernent une contamination sur 5. Dans ce lot de contamination, un tiers se passe dans le cercle familial, 28% dans le milieu professionnel et 20%, soit une sur 5 là aussi, dans le cercle amical. Et dans ces réunions, c'est précisément le moment du repas qui est un fort vecteur de contamination, puisque eh bien, dans un repas, on ne porte pas de masque, on mange, on parle, il y a des gouttelettes qui peuvent s'échapper, tomber dans l'assiette du voisin, et je vous décris pas la suite, vous savez comment ça se passe. Donc évidemment, à quelques jours du repas de Noël, c'est très préoccupant comme situation. Les recommandations officielles aujourd'hui, c'est que au moindre doute pour vous, si vous avez pris des risques, si vous avez été en contact avec plusieurs personnes, que vous n'êtes pas tout à fait sûr, eh bien il faut passer à minima un test antigénique au plus tôt 48 heures avant le repas de Noël. Et sur place, ben, tout ce que vous savez déjà, hein, distance physique de 2 mètres entre les convives, aération 10 minutes toutes les heures, le masque autant que possible, et surtout, 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 une prudence toute particulière à l'égal des personnes fragiles ou des plus âgées. Et avec tout ça, ben, de joyeuses fêtes quand même, hein, autant que faire se peut.
Oui, enfin, j'ai cru comprendre, Nicolas, que vous n'alliez pas manger, juste prendre les cadeaux le soir de Noël. Pas très beau tout ça.
Exactement.
7h23 sur France Culture.